Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour le cinquième service après-vente de la F1 de cette saison. Les Grands Prix s'enchaînent à une cadence infernale et Bahreïn clôturait cette tournée d'ouverture extra-européenne avec une course qui s'annonçait comme disputée et qui l'aura été. Avant que les écuries ne posent leurs valises en Europe, ouvrant ainsi le cœur de la saison avec son lot de nouveautés aérodynamiques et compagnie, le Grand Prix de Bahreïn était l'occasion de tracer un premier bilan de ce début de saison pour le moins surprenant. Alors que la Chine annonçait un regain de forme pour les grosses écuries et un certain tassement de la hiérarchie aux avant-postes entre Brown Grand Prix, Red Bull et Toyota, Bahreïn a-t-il confirmé ou infirmé ces tendances? Réponse tout de suite avec Shinji et Enzo. Bonjour.
Bonjour.
Salut les diffuseurs.
Les diffuseurs?
Ouais, on parle beaucoup de diffuseurs. Alors, je dis bonjour aux diffuseurs, moi.
En même temps, c'est vrai que cette émission n'est écoutée que par les diffuseurs. À savoir nous trois. Donc, pas y aller par quatre chemins, on va commencer tout de suite avec le Grand Prix. Histoire de se mettre un petit peu en bouche, je propose qu'on commence par le chiffre inutile de Shinji, ce petit chiffre dont on n'a jamais besoin, mais c'est quand même bon de savoir.
Alors ce chiffre, attention, je vous guette aujourd'hui, c'est un chiffre avec une virgule. Ce chiffre, c'est 91,55.
Mais qu'est-ce donc?
Ah, ce n'est pas
le... Le taux d'alcoolémie de Kimi?
Ça pourrait être, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le pourcentage non plus de fans de F1 qui aiment Bernie Ecclestone. Non, non, non. C'est le pourcentage de terres désertiques au Bahreïn. Il y a 91,55% de désert. Sur un pays qui est plus petit que Singapour.
En gros, c'est une grande cour de récréation avec un grand bac à sable.
Voilà.
Voilà.
Un grand bunker.
Donc, si vous y allez... Hein, alors,
oh non. On a dit qu'on arrêtait de parler de golf. Hein.
Donc si vous y allez, hein, un, c'est que vous n'avez pas beaucoup de goût pour choisir vos Grands Prix de F1. Ça,
oh.
C'est dit.
Non, tu peux pas dire ça.
Si, je le dis. Et deux, ben vous y paumez pas. Hein, parce que c'est pas Dora l'exploratrice qui viendra vous chercher.
Je pensais qu'on était tombé très bas avec le panda.
Non.
Mais non. Là, nous sortir Dora l'exploratrice, non, c'est fantastique, merci.
Non, mais tu couperas en montage.
Eh ben, dis donc, ça c'était un bon chiffre, moi je dis. Ça ne vaut pas le panda.
C'est pas pareil.
C'est différent.
Voilà. C'est pas animalier. Mais je sais que Shinji a peur de verser dans le trop animalier.
Voilà.
Donc, après ce chiffre complètement inutile, on est bien d'accord?
On ne peut pas dire ça.
Bah, si t'aimes le sable, c'est utile à savoir.
Bah, mais sérieux, tu vas replacer ce chiffre où dans ta conversation?
Bah, je sais pas, t'es dans une soirée, t'as bu.
Moi, je croyais que t'allais me sortir le nombre de kilos de colle qu'ils avaient utilisé pour coller le sable autour du circuit pour pas qu'il y ait des tempêtes de sable.
Ça aurait été un bon chiffre.
C'est trop proche de la F1, ça.
Tiens, question top position. Ah, m'en parlez pas. Donc, on entame tout de suite la course avec la grille de qualification. Et je pense
tout
que
à fait.
Enzo meurt d'envie de nous la faire.
Ouais, bien sûr, je trouve le bon onglet.
Alors voilà, justement, j'en profite pour vous encourager tous à aller sur le site statf1.com. Voilà, c'est dit. On en parle beaucoup, donc autant en faire la pub.
Il faut le dire, on n'est pas membre de l'équipe. Hein, parce que nous, là, on pourrait croire, mais non. Mais on apprécie simplement la quantité monstrueuse d'informations qu'on peut trouver dessus. Je veux dire, à tout niveau, hein, en chiffres. D'ailleurs, Shinji, quand il veut nous donner le chiffre inutile, il vérifie bien que StatF1 ne l'est pas, pour vous montrer à quel point il est bien inutile.
Moi, vas-y, salut.
Et je m'en sers également pour voir certains casques pilotes.
Voilà. Donc, et pour connaître toute l'histoire de Leighton House.
Et j'en trouverai une autre.
Ah, il y a Lola cette semaine. On peut parler de Lola si tu veux.
Tout à fait. Lola, j'attends Lola. Pardon. Qui est cette chanson?
Allez, la grille.
C'était la quatrième pole position de l'Italien préféré des Français, j'ai nommé Jarno Trulli, Après celle de Monaco en 2004, celle de Spa en 2004. La dernière, c'était à Indianapolis, ça lui avait pas servi à grand chose puisque c'était en 2005 et il avait pas pris le départ. Voilà. Et donc c'est sa quatrième et donc la première chez Toyota. Je me demande même si c'est pas la première de Toyota, tout simplement.
Non, il me semble, il y en avait pas eu du temps de Schumacher et de, il y avait qui avec Schumacher?
Sur Stat F1, il parle de la troisième.
Trois pole positions après Ralf Schumacher en 2005 et aux États-Unis, pardon. C'était déjà sur Toyota que Yarnot.
Ah déjà. Ah oui, effectivement. Ouais.
Avait fait ça. Donc bon.
On peut juste aussi mentionner que sa pole, il l'a dédiée à toutes les victimes, enfin à la région des Abruzzes, qui a été secouée par un séisme la semaine dernière, voilà.
Voilà. Je sais pas si c'est là-bas qu'il a ses vignes d'ailleurs. Bon bref, c'est un. Il a des vignes, Trulli. Ça serait bien que Sinjin nous trouve le nombre de bouteilles qu'il fait chaque année. bon. À ses côtés sur la grille, son coéquipier Timo Glock, suivi de Sébastien Vettel sur la Red Bull Renault et Jenson Button, légèrement en retrait. On retrouve le premier champion du monde de cette grille, Lewis Hamilton, sur la cinquième place avec sa McLaren Mercedes. À ses côtés, la deuxième Brown Grand Prix Mercedes, sixième. Vient ensuite le double champion du monde Fernando Alonso sur Renault. J'anticipais. Et à ses côtés Felipe Massa sur Ferrari. Quatrième ligne, Nico Rosberg sur sa Williams. C'est l'autre retraité Kimi Raikkonen, l'autre Ferrari Kimi Raikkonen. Donc ça c'était.
Ça fait quand même beaucoup de lapsus révélateurs, hein.
N'est-ce pas? Donc ça, ce sont les pilotes qu'on a pu retrouver donc en Q3. Viennent ensuite sur la deuxième McLaren de Heikki Kovalainen, 11e. Nakajima Williams. Robert Kubica, 13e sur sa BMW, donc qui n'est pas arrivé en Q3. Et Nick Heidfeld sur l'autre BMW à ses côtés. 15e position, donc il arrive en Q2. J'ose pas dire que c'est la première fois, j'en sais rien en fait, mais peut-être. Nelson Piquet sur la Renault.
Je crois que c'est le premier cette saison. Hein. Il avait fait 14e, je crois, je sais plus où.
Oui, mais c'est suite à des déclassements, non?
Peut-être, ouais, je pense.
Sébastien Buemi sur la Toro Rosso Ferrari, 16e. Giancarlo Fisichella sur la Force India Mercedes, 17e. Marc Webber, très mauvais 18e temps sur la Red Bull Renault, mais il a été gêné dans son tour rapide par Adrian Sutil, qui s'est retrouvé rétrogradé 2-3 places, et donc qui est 19e sur la grille. Enfin, dernier de la grille. Et voilà.
Eh ben, tu sais quoi? J'ai les chiffres!
De quoi?
Le vignoble de Yarnaud Trulli, c'est 30 hectares de vignes. Et il a commencé en l'an 2000 avec 18 000 bouteilles, et là maintenant, il en est à 150 000 bouteilles. Voilà, qualification surprenante ou pas pour vous?
Moi, je pense pas, parce que les Toyota ont l'habitude de tourner à Bahreïn à l'intersaison.
C'est vrai.
On sait que par le passé...
En même temps, Ferrari aussi. Hein.
Oui, mais alors, pas cette année, mais les années précédentes, ça aidait beaucoup Ferrari, qui était très dominateur sur Bahreïn.
Bah, ça les a aidés, là aussi. Ils sont pas dans Q3.
Oui, aussi, oui.
Oui.
Tu peux dire ça?
Ça les a un peu moins aidés que Toyota quand même.
Regarde, voilà. BMW ne peut pas en dire autant.
Alors qu'ils étaient à Bahreïn.
Eux aussi, ils y ont été.
Bon, faut quand même préciser qu'ils étaient assez légers hein, sur la grille. Je crois que Trulli il avait 13 ou 14 tours et que Glock avait 11 ou 12 tours d'essence prévue, alors que derrière on était déjà à 15 ou 16 tours.
Tout à fait, mais c'est pas 6 tours non plus, quoi. Donc c'est...
Ah non, c'est puis je crois qu'il leur colle. Il leur colle, je crois, c'est 4 dixièmes sur la grille, donc même avec le plein, la différence d'essence n'explique pas tout.
Tout à fait.
Donc on passe tout de suite à la course. Une course qui a été remportée par
Jenson Button. Donc c'est toi qui avais raison.
Eh ouais, c'est vrai. Yes, yes. Enfin, je gagne quelque chose. Oui.
À nous trois, on a le podium quand même.
Oui.
Quoi, toi? T'avais dit Piqué.
Non. Mais non, ça va pas la tête. J'avais dit Vettel.
Ah ouais, Vettel
et moi j'avais dit Trulli.
Et Sinji avait dit Trulli.
Et en plus, c'était quand même trois potentiels vainqueurs de la
course. Oui,
tout à fait.
Parce que les trois ont quand même failli pouvoir gagner sur la course. Donc Jenson Button, c'est sa quatrième victoire en carrière, la troisième cette saison. Troisième victoire également pour Brown Grand Prix.
Ouais.
Voilà, il était quand même parti, il était cinquième, c'est ça au départ, je crois.
Oui, oui. Il s'est fait doubler assez rapidement par Hamilton. Et c'est tout, non? Quatrième peut-être.
Il commence quatrième, il se fait doubler par Hamilton, puis se refait dédoubler. Et en fait, c'est Vettel qui a glissé au cinquième rang. Voilà. Donc, fait un très bon départ, Button.
Avec une voiture qui a eu quand même l'air dans l'ensemble. On s'attendait à ce que les Brown soient assez fortes sur ce circuit-là. Parce qu'apparemment, les hautes températures favorisent chez eux la montée en température des pneus. Et c'est une voiture qui abîme assez peu ses pneus, apparemment. Et la voiture était assez étonnamment, n'était pas vraiment au devant de la scène. Ils n'ont pas trop dominé, puisque c'est Hamilton qui a fait les meilleurs temps avec Rosberg, je crois, le vendredi et le samedi. Donc, c'est une course intelligente.
Oui, c'est la victoire la mieux construite des trois, vrai. Je trouve. Bon, c'est vrai que par exemple, Australie, bon, bah, il est parti devant.
La moins facile, on va dire.
Oui, aussi. Mais là, il y avait beaucoup plus de stratégie. C'était intéressant.
Bon, il a aussi bénéficié de conditions de course. Je pense qu'on va en reparler un peu après. Mais c'est vrai qu'il a non seulement été rapide, et je pense qu'il a fait le boulot qu'il fallait faire, mais il l'a lui-même reconnu derrière. Et d'ailleurs, il n'a pas arrêté de dire ce week-end. Pour lui, Brown a perdu l'avantage. Oui. C'est aussi un moyen de mettre la pression sur l'équipe pour que ça progresse. En qualif... En qualif, bon, ils sont encore meilleurs parce qu'ils arrivent à partir avec pas mal d'essence, un peu plus que les autres. Donc voilà, mais en course, ils dominent toujours autant en course. La voiture à voir, la Brown Grand Prix à voir sur la course, c'est splendide, quoi.
Il n'y a pas eu d'évolution technique sur la voiture depuis l'Australie. Donc il y en a une prévue apparemment pour l'Espagne.
Il y aura peut-être même une nouvelle livrée en Espagne.
Ouais, ça c'est autre chose.
Quelle couleur ?
Rouge. Ah quoi, c'est pas sûr parce que alors en ce moment
Virgin a changé hein.
On a Virgin alors oui parce qu'en fait là ce week-end Virgin ils ont fait la promotion de Virgin Galactic.
Oui.
Virgin Galactic côté, ouais. En fait c'est une compagnie aérienne de voyage dans l'espace.
Waouh.
Et alors pour la petite info dans cette compagnie aérienne il y a un pilote qui n'est autre que Niki Lauda.
Waouh.
Qui a demandé à comment il s'appelle, Richard Branson, c'est ça, de bien vouloir l'accepter dans son programme pour piloter les navettes. Et d'ailleurs Barrichello a demandé au patron de Virgin, il lui a demandé de lui offrir le voyage de partir. Barrichello rêve de partir en apesanteur.
On parle même d'un changement de nom hein.
Mais c'est pas encore sûr.
Ça sera pas en cours d'année, ça c'est pas possible.
Ouais.
Bah ça serait sans doute pour devenir un sponsor titre. Genre Virgin Brown Grand Prix ou Brown Virgin Grand Prix ou ça restera Brown quoi qu'il arrive. Puis je pense que Brown il est aussi attaché à ça parce que c'est aussi son projet et que faut quand même se rappeler qu'à l'origine on avait parlé de la piste Branson, je crois que c'est dès le mois de février et lui il avait posé ses conditions, il avait un petit peu fermé la porte à l'équipe et d'ailleurs l'équipe touche pas énorme, hein, je crois que c'est 250 000 euros ou livres. Je sais plus par week-end, donc ce qui est franchement pas grand-chose.
Ah non, c'est pas grand-chose, non.
Et là, ils essayent de récupérer le contrat de partenariat, mais Brown, ils leur font clairement comprendre qu'avec trois victoires, les données, elles sont plus les mêmes.
C'est clair.
Que fallait prendre le risque avant. Là, maintenant, c'est plus un risque, c'est un investissement clair et net. Donc, on pourrait avoir une voiture rouge, mais peut-être d'une autre couleur, parce qu'apparemment, il y a d'autres sponsors qui sont sur peut-être Santander avec Alonso.
Mais apparemment, Virgin va être comme Marlboro pour Ferrari, c'est-à-dire qu'ils auront la livrée et après ils revendront des espaces.
Ah, mais c'est pas bête. Hein. Mm-hmm. Donc, deuxième position, Sébastien Vettel.
Et c'est pas la surprise. Première fois qu'il est sur le podium sans être victorieux.
C'est vrai.
Bon, il n'y a que trois podiums, mais et là, il faisait un peu la gueule.
Ah bah c'est comme Schumi quand il était pas premier. Hein.
Ah mais c'est bien comme mentalité parce que c'est sûr que c'est pas beau sur le podium mais c'est là aussi on se rend compte que c'est un champion et que ce qui vient là c'est pour gagner quoi.
Seule la victoire est belle. Hein.
Surtout que là franchement sur la course et sur le week-end s'il y a un homme en forme ce week-end à Bahreïn c'est Vettel. Il surclasse pas les autres non plus, mais il est clairement en forme, quoi. Et pendant la course, parce qu'il passe sa course derrière Hamilton Et puis après, il va perdre un temps fou derrière Trulli pendant le deuxième relais du pilote Toyota.
Quand Button dit que Brown n'est pas en tête, c'est que Red Bull est devant.
La ouais. Red Bull de Vettel.
Ouais. Enfin bon, là, Weber, c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas eu de chance.
Certes, mais il n'a pas fait non plus une course.
Oui.
Voilà, il n'a pas eu de chance. C'est pareil. C'est... Moi, je trouve que c'est toujours aussi un peu facile de se dire j'ai été bloqué à la dernière minute. Il faut quand même rappeler que la première séance a fait 20 minutes et que les barbeaux, ils ont quand même 20 minutes pour faire des temps potables. Si Vettel, il est capable de faire un deuxième temps, un troisième temps sur la grille de départ, je pense que Weber, il est capable de faire au moins un top 10 et de se mettre à l'abri de la 16e place. Ouais. Donc, il a aussi un peu cherché... Bon, après, il y a toute la problématique autour des pneus tendres qui font beaucoup parler.
On parle, là, on descend un peu la grille, du moins les résultats, pardon. Bon, on a parlé un peu de la grille. Moi, le début de course, il m'a enthousiasmé, quoi. Et franchement, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est, mais pourquoi Shinji n'aime pas ce circuit? Parce que, bon, ça bataillait dans tous les coins et... Ouais, j'ai trouvé que c'était un beau début de course en tout cas.
Est-ce que franchement c'est le circuit? Je suis pas sûr que ce soit le circuit.
Bah c'est pas, ça empêchait pas en tout cas.
Le début aussi hein, j'ai aimé hein.
J'ai vu les courses de GP2 ce week-end, de GP2 Asia, et j'ai retrouvé, ce qui est quand même assez étonnant, j'ai retrouvé dans ce début de course les départs de GP2 où les mecs pendant 3-4 tours ils sont collés les uns derrière les autres. On a eu à un moment donné, je crois, c'est 4 voitures de front. Voilà, je pense que ce qui permet à Bahreïn, c'est que Bahreïn, c'est pas un circuit extrêmement sélectif. C'est des grandes courbes. Il y a 2 ou 3 virages sympas, mais au-delà de ça, ça casse pas des briques. Enfin, c'est mon avis personnel. Hein. Et je pense qu'effectivement, on peut davantage passer hors trajectoire. Et d'ailleurs, on a eu pas mal de dépassements à l'extérieur, dont un dépassement d'Alonso sur Trulli.
Il faut des circuits comme ça aussi.
Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je critique pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un circuit qui est nécessaire. On est dans la péninsule arabique et que faut quand même pas oublier, c'est que Ferrari a des partenaires dans la région, que McLaren est détenu à moitié par le gouvernement de je sais plus quel émirat. Donc voilà, il y a des capitaux. Je verrai la différence que ça fait par rapport à Abu Dhabi. Je ferai la comparaison.
Ouais.
Ouais.
J'ai quand même un peu peur que Bahreïn souffre face à Abu Dhabi.
Mais de toute manière, tous ces pays-là se tirent la bourre sur tout ce qui est événement sportif comme ça en ce moment. Et c'est à celui qui fera le plus bel événement. Hein. Ils se tirent la bourre pour le Grand Prix moto, pour le Grand Prix de F1, pour d'autres sports avec une petite balle blanche que je chiterai pas, etc., etc. Je crois qu'il y a des tournois là-bas qui sont sans parler du fait qu'ils investissent aussi dans des clubs de foot, etc.
Ah oui. Bah quand on prend Guéretz là qui va aller signer dans un club des Émirats Arabes Unis, après ouais. Marseille, ça fait mal quand même. Hein.
Je pense qu'ils ont des arguments sonnants et trébuchants.
C'est sans doute ça, ouais. C'est...
refuser une Champions League, de jouer une Champions League, ouais.
Alors il y a ça, puis je pense que aussi, enfin c'est quand même des mecs qui sont ultra passionnés, quoi. Notamment pour le sport auto, on voit, il y a plein de.
Oui.
Il y a plein de mecs dans le coin qui sont super passionnés, ils ont une fortune.
Mais pas doués parce qu'ils te mettent une Renault dans le mur.
Ah non, mais ils ont interviewé le mec le mec, il était quand même très content de lui, quoi.
Ah oui, on a parlé de lui, il était content.
C'est vrai. En même temps, il s'en fout pour lui, une Renault, c'est quoi? C'est 1,5 million, 2 millions, c'est quoi? C'est une majorette pour lui.
Oh, j'ai plié la Twingo. Non, c'était une F1. Oh, pareil.
Oh ouais, voilà. Oh, à 2 millions près.
Bon, on continue à descendre le résultat de la course.
Donc, troisième sur le podium, Yarno Trulli.
Oui.
On va y revenir, non?
Oui, on y reviendra. Mais grosse
déception. Ouais, c'est une grosse déception. Mais moi, c'est pas trop Trulli, c'est Toyota. Enfin, on a Trulli qui part premier et qui finit troisième. On a Glock qui part deuxième et qui finit, septième. Donc, globalement, c'est un tir groupé totalement raté de la part de Toyota. Ils sont partis sur une stratégie à 3 arrêts, je crois.
Ouais.
Non, ils ont pas fait 3 arrêts. C'est plus, il a passé les durs au milieu, lui.
Ouais.
Voilà.
Et alors que tout le monde était en temps.
Ça lui a flingué sa course.
Et en même temps, ça a flingué celle de Vettel, puisque Vettel était derrière lui à un moment donné.
Derrière Glock.
Derrière Trulli.
Non, je te parlais de Trulli. Ah non, c'est pas. Non, qu'est-ce qu'il a mis Trulli? Il a mis des tendres ou il a mis des.
Trulli, il a mis tendre, dur, tendre.
D'accord.
Il a fait le deuxième relais en bouchonnant Vettel. La preuve quand même que ce nouveau règlement qui est censé faciliter les dépassements, on peut en reparler, hein, parce que c'est quand même deux voitures équivalentes et que on a quand même Trulli
qui a aucune calcaire.
Là sur le coup, la Toyota a le diffuseur, mais elle est globalement un peu moins bonne que la Red Bull. La Red Bull est beaucoup plus efficace sans diffuseur. Donc c'est deux voitures à peu près égales. Là, on a quand même Vettel qui reste 10 minutes derrière avec des pneus tendres, alors que Trulli, il a des pneus durs. Et sur Bahreïn, donc c'est quand même la preuve que le règlement, on se demande pourquoi ils l'ont changé. Quoi.
Ouais. Par contre, après, en quatrième position, bon résultat quand même.
Quand même, oui.
Il a fait moi, j'ai trouvé transparent la deuxième partie.
C'est vrai. Mais un beau début de course.
Un beau début de course. Alors c'est pareil, là-dessus, j'en parlais je crois la semaine dernière à propos de Alonso. Voilà un mec qui n'a pas forcément une super voiture, qui se défonce avec la bagnole. Même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, de toutes les voitures qu'on le Kers, c'est quand même McLaren qui est la meilleure. Ils ont un Kers qui est fiable, qui est performant. Là, avec le Kers, apparemment avec le Kers, toutes les équipes ont fait la différence, sauf BMW Sauber. Donc,
Et les évolutions, elles ont vraiment eu un effet, quoi. L'arrivée du... Alors, pas du double diffuseur, mais diffuseur intermédiaire. On voit que les résultats arrivent. C'est intéressant pour la suite. C'est peut-être... Enfin, t'en parlais, il manque d'appui à l'arrière, forcément, avec le double diffuseur. Ça va peut-être pas être la solution, mais...
C'est exactement ce que je disais dans l'article sur les diffuseurs. C'est que McLaren, on avait bien remarqué cet hiver que quand ils mettaient l'aileron 2008, la voiture a marché très bien. Elle était bien équilibrée et tout. Dès qu'ils mettaient l'aileron 2009, comme le flux d'air, il était totalement déconnecté de l'aileron, la voiture a marché plus du tout. Donc là, ils ont réussi à remettre le flux d'air sur l'arrière, la voiture marche beaucoup mieux.
Et d'ailleurs, ils ont vite compris que c'était une des solutions importantes, parce que lors de l'affaire des diffuseurs, ils ont été parmi ceux les moins virulents. Hein.
Oui.
Sans doute parce que aussi préparés...
les arrangeait bien. Quoi.
Voilà, ça les arrangeait bien.
Par contre, ce qui m'inquiète sur McLaren, c'est que j'ai pas l'impression, contrairement à Ferrari, par exemple, pour moi, Ferrari, je pense qu'ils ont une bonne base et que c'est juste histoire de développer, de reprendre de la confiance. McLaren, j'ai quand même l'impression que...
C'est beau la foi.
Mais McLaren, j'ai quand même l'impression que c'est pas qu'ils sont arrivés à un maximum, mais c'est que ils sont déjà en avance sur les autres. Et pourtant, la différence, je pense que la différence par rapport aux autres, elle n'est pas encore énorme.
Ils sont déjà en avance sur les autres, mais ils sont encore en retard. On peut dire ça comme ça.
Voilà, tout à fait.
Tandis que Ferrari est en retard, mais ils sont en retard.
Ouais.
Non, mais si tu veux, c'est-à-dire que selon moi, sur la Ferrari, à la base, le concept est bon. Et je pense que Ferrari, s'il retravaille un peu la voiture, je pense que la voiture va avancer dans le bon sens. McLaren... Il y a déjà quelque chose au départ dans la voiture qui fonctionne pas. Donc là, pour le moment, je pense que les performances sont bonnes parce que justement, derrière, que ce soit Renault qui pour le moment se plante un petit peu dans ses améliorations, peut-être aussi parce que la voiture à la base est pas terrible, Ferrari qui est en pleine crise de doute et qui techniquement est pas énorme, mais il faut quand même voir qu'en qualification les Ferrari sont je crois 2-3 places seulement derrière Hamilton, mais Raikkonen il a pas le Kers, il est 5 places derrière et il a je crois c'est 6 ou 7 tours de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que Ferrari a entre guillemets une plus grande marge de manœuvre. Et que McLaren, ça va à un moment donné, ça va un peu plafonner parce que il y avait un loup dans la première voiture qui faisait que.
Et je pense que globalement chez McLaren, les saisons passées, c'était quand même des évolutions, les règlements n'ont pas énormément changé, donc c'était des évolutions quand même. Et peut-être que maintenant, on paye le départ de New Way aussi.
Au New Way, et puis...
Oui, c'est vrai, ouais.
Moi, je reste sur Alonso. Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a New Way qui faisait des voitures fantastiques et on le revoit cette année. Mais le moment où ça a quand même commencé à fonctionner, c'est quand Alonso est arrivé. Et moi, je crois que je l'avais dit dans la première émission de pré-saison. Ce qui m'inquiétait par rapport à Hamilton, c'est que Hamilton, il a montré qu'il pouvait être le leader d'une équipe, il a montré plein de choses. Mais est-ce qu'il est capable de prendre entre guillemets d'influer sur les décisions de l'équipe, de les pousser à faire des développements, de donner des vraies directions, comme je pense a pu le faire Alonso, quoique Alonso montre chez Renault que c'est pas ça. Donc. Après Lewis Hamilton, Rubens Barrichello.
Bonne place pour un second.
Voilà.
Oui.
Maintenant, c'est officiel. Là, faut qu'il le comprenne. C'est pas officiel, mais maintenant, faut qu'il le comprenne, quoi.
Certes.
Moi, je pense que vers la fin de saison, Brown risque davantage de faire des places que d'être sur des victoires. Donc, je vois quand même mal Barrichello gagner. J'ai pas trouvé très bon ce week-end non plus. Donc.
Mais faut pas non plus qu'il soit trop mauvais parce que Brown, ils peuvent avoir des ambitions. Et bah, pour les constructeurs, il faut les deux pilotes. Hein.
Mais surtout, ouais. Là, je me demande, est-ce que faudrait qu'on vérifie dans les statistiques. Est-ce que Brown n'est pas la seule équipe qui a à chaque fois placé ses deux pilotes dans les points depuis le début de la saison?
C'est plus que possible.
Parce que quand même, pour une jeune équipe qui en plus a dû adapter son moteur à la dernière minute et tout, là ça fait quand même 4 grands prix, 0 abandon.
C'est le talent.
Même si on a eu très peur, hein, parce qu'il paraît que sur la grille de départ, ils avaient retiré les capots moteurs, ils avaient mis de la glace sur le moteur pour refroidir le moteur parce que apparemment, chez Brown, on était super inquiet des températures.
Bah oui, t'as raison.
Parce que je sais que Vettel a abandonné une ou deux fois, donc c'est pas possible. Ouais. Toyota, il a dû avoir.
Il y a eu un accrochage de trulis en Malaisie et c'est tout en plus.
Donc voilà, donc en fait, c'est Brown la seule à avoir marqué tous des points partout.
Voilà.
C'est une belle performance, quoi. Ils ont vraiment bien bossé sur la voiture. Points, ouais, 50 points, c'est
3 de plus que Ferrari l'an dernier, au même stade.
Voilà, ouais.
Donc voilà, sur Rubens Barrichello, pas grand chose à dire.
Non, comme tu l'as dit, il a pas été brillant ce week-end.
Ouais, mais je pense que sur le début de saison, il y a eu une espèce de vernis, une espèce d'euphorie autour de Brown Grand Prix. Oui. Où on s'est dit, ah, c'est fantastique, moi le premier, hein, Barrichello revient et tout, ça fait plaisir, c'est la belle histoire. Mais là, on commence peut-être à se rendre compte, bah, quand la voiture faiblit un petit peu, bah, il fait pas la différence.
Mmh. Ouais, pas... exact.
Voilà, c'est pas une nouveauté, quoi.
Voilà.
Alors, attention, 6e place et jingle. Ferrari et Kimi Raikkonen marquent leur premier point.
Et donc, ça n'est pas le pire départ de Ferrari.
C'est le deuxième pire départ, Histo.
Me voilà rassuré.
Ah, la vache. Et j'étais super content et j'ai dansé. À la fin de la course.
Non.
Je te jure, j'ai fait une espèce de danse de remerciement au dieu de la F1 de nous avoir donné ces 3 petits points.
Comme quoi, on devient moins exigeant.
Voilà, 6e, ils sont là, quoi. Ils auraient peut-être pu faire pareil des 6e, des 7e places au Grand Prix précédent. Bon, là, tout a marché, on va dire.
Sur la voiture de Raikkonen, ouais.
Rien n'est parti en vrille, en tout cas.
Il a globalement fait, on va dire, une bonne course, même s'il a encore un peu tendance à se laisser dépasser tout seul par les autres.
Ouais.
Il y a eu, alors, il aurait pu briguer la 5e place de Barrichello, mais apparemment, lors du 2e ravitaillement, et la relation, on dit que tourne bien chez Ferrari ce week-end, faut être honnête, la rumeur dans le paddock affirme que, en fait, ils auraient essayé de mettre sur la roue avant un pneu arrière.
Ah oui, oui, j'ai entendu ça, oui.
Ce qui n'est pas franchement très, très, très fiable pour
la voiture. Je sais pas.
Aérodynamiquement, ça crée un léger déséquilibre.
Faudrait regarder si c'est vrai, ça.
Mais c'est une rumeur.
Ah non, moi, je l'ai encore enregistré, donc je pourrais regarder. Hein.
C'est voilà, le genre de bourde que nous offre Ferrari.
Bah non, mais...
Depuis plus d'un an, même, parce que...
Les petites équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ça peut arriver.
C'est vrai, voilà, je suis tout à fait d'accord. Ouais. En plus, c'est l'Italie, c'est pas une grande nation de sport auto et tout. Faut leur laisser le temps. Toyota peut pas dominer comme ça pendant longtemps.
Ouais.
Mais quand même, et vous vous rendez compte, si Honda était resté, on aurait eu Honda, Toyota aux avant-postes et une équipe autrichienne. Ça aurait été bizarre. Même la F1 historique aurait été perturbée. En 7e position, on avait parlé donc de Timo Glock.
Bah, très décevant, hein.
Bon.
Forcément.
Ouais, Glock, et là encore, pour le coup, on dit que parce que Glock a globalement fait la même course que Trulli au niveau de la stratégie, on a beau dire que Trulli, il est bon en qualif, mais en course, c'est pas ça. Trulli, au moins, là, il limite la casse, alors que Glock, ça a été catastrophique. Moi, j'étais sûr qu'il marquait pas de points pendant le Grand Prix. Finalement, il en marque 2, mais il finit à 42 secondes, à même pas une seconde de Kimi Raikkonen.
Ah, une mauvaise course, quoi.
Voilà. Oublié pour Toyota.
Ouais.
Mais il y a quand même, enfin, j'ai quand même le sentiment que Toyota, ils ont cherché à faire la pole. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent tout et stratégique.
Ils ont voulu trop bien faire.
Je pense qu'ils ont voulu chercher le doublé. Alors que, bon, quelque part, ils auraient dû la jouer stratégique, même peut-être rien qu'au départ, quoi.
Ouais.
D'un autre côté, Glock est plus léger, c'est normal qu'ils prennent un peu de large. Mais, ouais, je sais pas.
Mais c'est dommage, c'est qu'il faut un bon départ. Glock s'envole super bien, comme il est plus léger, il prend la tête, Trulli est derrière. Mais on peut penser à ce moment-là que comme Trulli, son rythme en course n'est pas forcément extraordinaire. Glock peut s'envoler et il ne s'envole pas.
Ouais.
Il ne saisit pas ce début de course qui est un beau début de course. Et bah, au final, ça finit en eau de boudin. Et ça s'est vraiment délité très lentement, la course des Toyota. Je trouve c'est... Il y a eu le train de pneus, mais je pense qu'aussi, ils se sont peut-être vus trop beaux.
Ouais. C'était vraiment l'occasion d'or en plus ce week-end hein, pour eux.
C'est vrai. Ah puis il y avait les grands patrons hein, ce week-end. Peut-être qu'ils voulaient faire bonne impression aussi.
Sans doute oui.
Ils se sont mis la pression tout seuls et voilà.
Mais ça c'est Toyota. Hein. Toyota. De toute façon dès le départ ils sont arrivés en se fixant des objectifs complètement irréalistes d'être champion du monde en 5 ans. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Pour moi Toyota, j'adore la marque et. Vraiment, j'étais derrière cette équipe depuis le départ. Mais Toyota, l'inconvénient, c'est qu'ils sont arrivés sans avoir la mentalité F1. Alors que cette année, ils ont la voiture.
C'était une équipe ex nihilo, hein.
Voilà. Cette année, ils ont une bonne voiture. Ils ont une équipe qui est plutôt homogène. Ils ont l'occasion de faire des résultats. Et là, bah, ils ont une opportunité. Parce que la voiture roule bien, que le circuit, ils le connaissent bien, que la voiture, elle est quasiment réglée quand ils arrivent. Ils peuvent se concentrer sur le réglage fin, etc. Alors que les autres doivent se taper tous les réglages. Et là, il nous faut un résultat super décevant. Moi, c'est Toyota, franchement, là, ils m'ont même mis en colère.
Oh, quand même pas.
Oui, comme ça, c'est comme ça. Je suis colère. Pas vrai.
Ouh, tout énervé.
Tout rouge. Alors, 8e place et dernier dans les points, Fernando Alonso. Sur sa Renault.
Déçu.
Ouais.
Il part combien déjà sur la grille, Fernando ?
Bah, 7e.
7e ? Ouais, après tout, il perd qu'une place. Hein. C'est la place de Kimi, en plus. Il n'y a personne d'autre devant, sauf Kimi. Mais en plus, enfin, c'est surtout qu'il se cagade complètement au départ, quoi.
Oui.
Alors qu'il a le kerf.
Il a toujours plus ou moins gravité entre la 7e et 10e place.
Voire même, il a été derrière son coéquipier.
Oui, alors ça, c'était fort.
Après un ravitaillement.
Mais je pense qu'on pourra en parler de Piqué. D'ailleurs, ça va pas tarder. Moi, je suis quand même déçu par Renault. Ils ont quand même, théoriquement, ils ont des nouveautés. Ils ont ils ont un aileron arrière qui est quand même un diffuseur arrière qui est quand même un peu plus abouti que celui de la McLaren.
Oui, c'est moyen.
Bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut reconnaître, on en plaisante souvent, mais ils sont qu'un dans l'équipe.
Ils sont quoi?
Oui.
Ils sont tout seuls, enfin, il y a qu'Alonso dans l'équipe.
Oui, 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 ça c'est clair.
En 9e position, Nico Rosberg.
Ah, c'est toujours le même problème, hein, avec la Williams.
Bon en essai, moyen en qualif, nul en course.
Voilà.
Bah, c'était même une belle course, hein.
Ah bon?
Bah là, c'est vrai qu'il...
Attends, pardon, t'as dit Bébert, pardon.
Non, Rosberg.
Rosberg.
Ah, Rosberg.
Alors, Rosberg, en plus, le pauvre, il s'est tapé, c'est pas difficile. Dès qu'il y avait un mec qui sortait des stands, c'était devant Rosberg. Raikkonen sort des stands, devant Rosberg. Alonso sort des stands, devant Rosberg. Button sort des stands, devant Rosberg. Rosberg, il a passé son temps à se faire doubler par des mecs qui sortaient des stands.
C'est pas vrai. Quand Rosberg est sorti des stands, il n'est pas sorti devant Rosberg. Eh, nul.
C'est nul.
Je me fais pitié.
Et c'est vrai que je suis sûr que si on regarde le tour par tour de Rosberg, alors il est où Rosberg? Bah déjà dès le départ. Mais en fait, il est quasiment jamais dépassé, quoi.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on le voit monter en place,
c'est que les autres devant ont ravitaillé.
Voilà.
Et quand il ressort, eh ben, tout le monde lui repasse devant. Donc c'est. Il y a quand même
Non, mais c'est une vraie déception, William. C'est peut-être la plus grosse déception de ce début de saison. Et
par rapport au
potentiel, ça va être pire, quoi, quand les voitures vont sortir leur nouvelle voiture, quoi.
Ouais.
Mais en plus, c'est un syndrome de l'équipe depuis quelques années. C'est qu'ils nous font globalement des belles voitures et assez rapides. En essai, hein, les dernières années, en essai privé, la Williams, c'est une voiture qui roulait plutôt pas mal, pas impressionnante, mais plutôt pas mal. Ils n'arrivent pas à concrétiser pendant le championnat. Et là, ils nous font version miniature sur chaque Grand Prix.
Sur des essais libres.
Ce qui est quand même hallucinant de la part d'une équipe comme Williams, quoi. Ils sont devancés par Toyota.
Ah, et pourtant, mais... côté stratégie.
Toyota, côté stratégie, voilà. Williams, c'est des titres, enfin, c'est une grosse écurie sur les 30 dernières années.
Oui, mais il y a combien de temps? Voilà, faut pas oublier ça, quoi.
Frank Williams, il était pas sur les circuits en Australie, en Malaisie et en Chine. Donc, je me disais, peut-être que parce que Frank Williams n'est pas là, voilà, il y avait peut-être pas la finesse des décisions de Frank Williams. Mais là, Bahrain,
c'est pas sûr que ce soit lui le stratège, hein.
Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il prend des décisions et que, je sais pas, peut-être qu'il il tient un peu plus l'équipe pendant le week-end. Et je me dis
en course, il est même pas dans le muret des stands feignants. Oups, pardon.
Ouais, pardon. Ah, oh, Dieu.
On vient de perdre un quart de nos auditeurs.
Wow.
Qu'est-ce que tu sous-entends?
Ah non, mais c'est juste parce qu'on a, je sais pas, ça se trouve, un auditeur handicapé sur quatre.
Non, c'était une blague de très mauvais goût. Non, mais ce que je veux dire, c'est justement, il n'est pas sur le muret des stands, c'est quand même sur le muret des stands que se prennent les décisions. Donc, je suis pas grande autorité ou un grand pouvoir pendant les courses, quoi.
Je pense que c'est surtout dans l'ensemble. Je pense que sur les impulsions dans l'équipe, et puis c'est aussi une figure marquante. Et je pense que
la présence, juste la présence.
Voilà, sur la présence, j'étais vraiment sûr que ça allait peut-être donner un petit électrochoc à l'équipe, te dire attention là les gars, on fait attention. Il y a Monsieur Williams qui est là, quoi. Et en fait non.
Ils s'en foutent.
Voilà, ça fait plaisir.
Je sais pas, toi tu bosses mieux quand il y a ton patron.
Oui.
Ouais.
Oui. Et généralement, quand il y a...
D'ailleurs, nous le saluons, il nous écoute ce soir.
Christophe, si tu m'écoutes. Donc voilà, Nico Rosberg, course à oublier, encore une. Et là, en dixième position, Nelson Piquet.
On peut dire qu'il a fait une bonne course.
Il fait même
par rapport à ce qu'il fait d'habitude.
Il fait un bon week-end.
Attends, oui. par rapport à Alonso, on peut dire qu'il a fait un super résultat.
C'est vrai.
Il est juste deux places derrière.
Ouais, il est pas très loin. Il a pendant les essais.
Il est à moins de 20 secondes.
Pendant les essais, il a été quasiment à jeu égal avec Alonso. C'est aussi peut-être parce que c'est un circuit simple.
Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai.
Mais alors par contre, moi, ce que j'ai
des chiens.
j'en ai parlé la semaine dernière de Briatore. Là, faut que j'en reparle un peu de Briatore. Tout à coup, Briatore, ça y est, il va donner sa chance à Nelson. Voilà. C'est quand même un mec qui, quand Nelson fait...
C'est pas trop tôt.
C'est quand même un mec qui va attendre 15 courses que Nelson fasse de la merde pour comprendre que Nelson fait de la merde. Pour nous dire que dès que Nelson fait une dixième place, nous dire, ah ouais, faut qu'on lui donne sa chance. Alors qu'il y a à peine deux semaines, il n'arrêtait pas de descendre dans les journaux. Je peux pas défendre Nelson parce que j'ai pas envie, mais sur ce coup-là, il est pas aidé, pauvre garçon.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, bah, que tu...
Donc voilà, moi je dirais petit coup de cœur pour Nelson sur ce grand.
Pas non plus.
Pour sa performance, pour le fait qu'il se soit un petit peu sorti les doigts du troufion, voilà, c'est peu.
Espérons que ce soit un déclic.
L'année dernière, il nous a fait pareil en Allemagne.
Ouais.
Il nous a fait une belle course en Allemagne, donc tout le monde a cru qu'il allait gagner. D'ailleurs, ça a bien foutu. Je crois que Enzo d'ailleurs avait fait un dessin là-dessus. Ça avait bien énervé Alonso. Que ce soit Piqué qui fasse le premier podium de la saison pour Renault. En même temps, ça avait bien énervé Alonso, il avait fait deux victoires derrière.
Ouais.
Et pourtant, bah voilà, il fait un super podium en Allemagne, et derrière, il fait plus rien. Il est prolongé à la surprise générale chez Renault. Là, il nous fait une dixième place. Briatore le voit signer pour 15 ans. Et il va continuer à nous faire de la merde, quoi. Il va arriver à Barcelone, il va encore nous faire de la bouse de vache.
Et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand même qu'on va devoir réécrire notre quatrième de couverture du bouquin sur Piquet. On lui avait donné que 4 grands prix.
C'était pas ça.
Il me semble que c'est 4.
Il peut encore se passer des choses en 10 jours.
Ouais, voilà.
C'est vrai.
Hein, imagine, il se fait train de fumer du crack demain, par exemple. Fumer du crack.
Ouais. Non, ou bien il retourne voir sa famille au Brésil. Le Brésil, c'est pas loin du Mexique. Tout est permis.
Ah, les
tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis.
Ce soir, c'est rendez-vous à la boucherie.
Si ça se trouve, il y aura plus de Grand Prix cette année à cause de ça.
C'est vrai.
Grand Prix pour maladie. Et donc, si
pour
ça se
pandémie.
Trouve, ça tient. Voilà.
Mais non, mais il y a pas de porc en Formule 1.
Oh, je peux t'en citer. Hein.
Ah, on veut des noms.
Alors, d'après certaines vidéos.
Oh, mais non, c'est pas un porc.
Bah, c'est très cochon ce qu'il fait.
Allez, hop, on passe 11e, Marc Weber.
Bah, bonne remontée, quoi, mais bon.
Oui.
Ouais, voilà.
Voilà, quoi. Est-ce qu'on pouvait espérer mieux? Bah, pas sûr.
Franchement, j'ai pas l'impression. C'est la preuve que le niveau de Vettel, intrinsèquement, Vettel, il pousse l'équipe vers le haut de façon assez impressionnante.
Ah oui.
Ah, c'est clair. ça c'est indéniable, on en a déjà parlé la semaine dernière. C'est un Schumacher en puissance.
D'ailleurs, on nous reproche de parler de Vettel.
Et de trop le comparer à Schumi.
Alors que lui, au moins, il a la décence de ne pas mettre des pantalons en cuir. Alors, c'est le gros défaut que je trouvais à Schumacher. Il pouvait se garer à la rascasse, ça ne me dérangeait pas, je le défendais. Mais sur le pantalon en cuir chez Drucker le dimanche après-midi, non. Allez, on va passer à... sans transition, et qui que Valainen 12e.
Je pense que De La Rosa fera aussi bien.
Ah non.
Oh, ah, c'est méchant.
Non. Allez, entre un glaçon et un dinosaure, faut choisir le glaçon. Au moins, le glaçon, à un moment donné, il peut disparaître.
Oh. Mais je te rappelle que les dinosaures ont disparu à cause des glaçons.
Il y a du progrès, déjà, il finit ses courses. Parce que c'était mal barré cette année.
C'est ses premiers kilomètres.
C'est... Bah, oui, c'est... Attendez, en Chine, c'était pas déjà le cas?
Ah non, on avait fait un petit sur en Chine comme quoi il avait fait 0 km.
Non, c'était pas en Chine.
Non, en Chine.
Alors c'était en Malaisie, c'est vrai.
Voilà.
Pas en Chine, il avait fini 5e même.
Ah voilà. Oui, c'est vrai, oui. Comment il avait fait?
Ah,
eh ben, comme ça. Tu vois, donc il retombe dans ses travers. Voiture un peu performante.
C'est là où on voit peut-être le vrai niveau de la McLaren, quoi.
Oui.
Parce que, oui. Hamilton transcende la voiture, que Valainen pense qu'au niveau confiance, il est pas dedans et que, donc le niveau, il est entre les deux, quoi.
Il est au niveau,
Il pourrait faire un peu mieux quand même.
Il est à la même place que celle où il était chez Renault en 2007.
Ouais.
Avec une voiture moyenne.
Voilà, tout à fait.
Avec une voiture pas capable de jouer la victoire.
Et moi, c'est un pilote moralement. Moi, je l'ai découvert au Stade de France et je l'ai découvert super battant et c'est ce qui me plaisait chez lui, quoi. C'était un battant. Quand il gagnait une course sur le petit circuit à l'intérieur du Stade de France, il tapait sur le volant tellement il était heureux alors que c'était juste un quart de finale. Et là, je le trouve pas battant, quoi. Je le trouve presque résigné chez McLaren. C'était déjà un commentaire que je faisais sur lui l'an dernier.
Surtout que, notamment chez Renault, on parlait souvent de lui pour ses talents mis au point. Et donc, il pourrait faire progresser la voiture, quoi, qu'elle soit soit mieux pour lui, quoi.
Mais est-ce que
on n'a pas cette impression.
Est-ce que seulement chez McLaren on l'écoute?
Ça, ouais.
Est-ce que chez McLaren, quand Aiki vient voir les ingénieurs en disant, écoutez, moi je pense que là, il faudrait peut-être mettre un peu plus d'appui parce que ça passe mieux et qu'il y a Lewis qui vient en disant, ah non, il faudrait plutôt en mettre moins. Ils vont écouter qui chez McLaren? Ils vont écouter Lewis.
Ouais, je pense qu'il est écouté autant que Piquet chez Renault.
Voilà.
Ouais.
C'est deux équipes qui sont exactement les mêmes sur ce point de vue-là, c'est que...
Ou que Barrichello chez Brown.
Encore, je pense que Barrichello est plus parti intégrante de l'équipe.
Ouais.
Pardon, que Barrichello n'était écouté chez Ferrari.
Je pense que Barrichello n'était peut-être pas forcément écouté chez Ferrari, qu'il n'était peut-être pas forcément écouté chez Brown, mais au moins sa place, elle est reconnue. Alors que là, on a vraiment l'impression, avec Piquet et Kovalainen, que ce sont des vulgaires bouche-trous, que les équipes, elles n'ont Dieu que... pour leur pilote et que le deuxième il est juste là pour faire le nombre.
C'est marrant, hein, c'est pas les mêmes écuries qui critiquaient Ferrari quand ils visaient que sur un pilote. C'était juste une remarque.
Et encore une fois, Ferrari, ils avaient la classe d'être entre guillemets clair sur la position du pilote et de le dire voilà ouvertement, alors que là c'est jamais vraiment ouvert, ou alors c'est chez Renault, enfin c'est quasiment inhumain ce qu'ils font à Piquet, parce qu'ils le descendent dans tous les médias, on a Briatore qui le descend, et puis là il se permet de dire ah c'est bien, belle course. 14e, on va passer.
Non, 13e.
13e.
13e. Ah oui, Bourdet, dernier dans le tour. Oui, j'avais oublié Bourdet. Excuse-moi Sébastien.
Belle course.
Très belle course.
Pour une fois, il se plaint pas.
Ah
enfin,
oui.
pour une fois, il reconnaît que c'est de sa faute en qualif. Première chose.
Non, ça, il le reconnaît souvent.
Ça, oh, oui, non. Il le reconnaît souvent.
Oui, non, mais il a toujours des excuses que la voiture elle est trop sous les roues par rapport à son pilotage, patati et patata. Il aimait mieux la STR3, mais la STR2 avec l'option B12, c'était pas mal non plus. Mais là, bon, bref.
Mais alors, en fait, pour une fois, c'est sa méthode, c'est qu'il reconnaît sa faute. Mais derrière, il en profite pour un peu se dédouaner en disant « Bon, d'accord, j'ai fait une boulette, mais bon, globalement, la voiture, elle me correspond pas. » Alors que là, cette semaine, c'est vrai qu'il a assumé complètement ses qualifs.
À croire qu'il écoute quand même ce qu'on lui dit, puisqu'il y en a plusieurs qui lui ont fait la remarque. Je pense notamment à Prost.
Ouais.
Qui a fait... Qui ouais,
Prost, il est super bien placé pour le dire. Prost qui s'y connaît vachement dans le domaine.
On peut pas dire qu'il se plaignait, Prost, hein.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'à la limite, Prost,
quand lui, quand il se plaignait, c'est qu'il y avait une bonne raison.
Voilà, lui, quand il se plaignait, c'était quand même, c'était un champion du monde qui se plaignait.
Voilà.
C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Pardon, monsieur Prost.
Et,
tu as fait le mal, hein. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais tapé sur Allez-y, je n'ose même pas me demander.
Bah, je coupais, directement.
Tout, tout.
Et donc, il a fait une course solide, voilà.
Bah ouais, parti 20e.
En disant, merde, allons-y. Et puis...
Alors, ouais. Il a un peu relativisé
sa course. Il arrête de se poser des questions, quoi.
Il a un peu relativisé sa course lundi soir chez Autocritique.
Ah, ça m'a étonné.
Par rapport à Buemi. Il a dit, voilà, je fais 13e et Buemi fait 17e. Mais allez pas en déduire que ça y est, je prends le dessus sur Buemi. Il a reconnu que Buemi avait eu un problème sur sa voiture pendant toute la course. Je pense qu'on en reparlera un peu après. Et donc il a rendu à Buemi ce qui appartient à Buemi, c'est que la course de Buemi a été handicapée alors que lui il a eu plutôt une bonne course et qu'il n'y a pas eu de problème.
Alors en gros il a fait, les gars j'ai fait une bonne course, mais c'est une erreur, hein, ça va pas se reproduire. Hein, c'est comme le 10e, hein, ça n'arrivera plus.
Mais moi, tu verras mes pronostics pour l'Espagne. Moi, je dis victoire de Bourdais.
Si ça arrive, je me feinte les cheveux en orange.
Ah, pareil tenue. D'ici là, j'aurai plus de cheveux, alors je m'en fous. Donc, on passe à la 14e place, Felipe Massa.
Mm-hmm. Il partait 8e. Hein.
Ouais.
Il a perdu 6 places.
Mais ouais. En fait, il a perdu des places au départ parce qu'il s'est retrouvé en sandwich entre Raikkonen, qui fait quand même un super départ, faut le dire. Raikkonen qui prend un super départ et qui il se resserre, il y a Barrichello, Raikkonen, il est pris un peu en sandwich et Kimi lui mange un bout de son aileron avant.
Ouais.
Donc il est obligé de rentrer et puis apparemment ils ont encore eu des problèmes de Kers. Comme quoi peut-être que le choix de Kimi était peut-être pas le plus mauvais parce que Kimi il avait pas le Kers et qu'il fait globalement une bonne course, ouais. Sans être impressionnant, il fait une bonne course.
Mais bon, c'est compliqué, hein. Comme tu le disais, la voiture a été faite autour du Kers, donc ne pas le mettre.
En même temps, le problème de chez Ferrari, c'est que le Kers, c'est pratique. Mais bon, si tu gagnes une seconde au tour grâce à ça, mais qu'au final, tu perds au bout de 10 tours parce que t'abandonnes.
Ouais.
C'est vrai.
Mais le seul problème de fiabilité de Ferrari cette saison, c'est quand même le Kers. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu d'autres problèmes de fiabilité sur la Ferrari. Les seuls problèmes, c'était le Kers. Et là encore, pour lui, c'est le Kers.
Et moi j'ai pas trop vu l'aileron de Massa comme s'il était beaucoup abîmé ou pas, mais je me pose la question quand même. On a vu des pilotes sur les trois premières courses qui à des moments avaient un peu amoché leur aileron avant et ça les a pas empêchés de continuer.
Ouais, ah, les petits flaps latéraux.
Non, là attention, hein, là sur la vidéo il tape bien Raikkonen, ça rentre bien dans le pneu et l'aileron avant de en fait si vous voulez, ouais. Toute la partie qui est devant la roue, la roue gauche, toute la partie, elle a sauté.
Ouais.
Donc, en fait, il s'est retrouvé avec d'un côté avec 20 cm de carbone en moins.
Voilà. Alors que c'est vrai que ce qui partait souvent c'est les petits flaps.
Ah, c'est
petits, voilà, parce que les petits flaps.
En Malaisie, je crois, c'est Glock en Malaisie, ouais. Qui avait perdu un bout de son aileron, mais bon, c'était vraiment un tout petit bout sur le côté.
C'est même à se demander à quoi il sert, parce que quand il se barre, on voit pas la différence.
On sait jamais, des fois qu'ils servent,
ouais.
Ils osent pas les enlever. On a quand même, puisqu'on est chez Ferrari quand même, on a parlé de la course de Raikkonen, et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Raikkonen a mené pendant deux tours.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est quand même une grande nouveauté.
Ouais.
C'est deux tours, mais ouais.
Ouais. T'as raison, on se constate vraiment avec pas grand chose.
Ouais.
Moi avec 3 points, et toi le fait qu'il ait mené 2 tours, on se console.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un fait marquant quand même.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai que ouais. Ils étaient aussi sur une stratégie lourde. Donc c'est la preuve aussi qu'ils ont quand même réussi à se classer 8e au départ, 8e et 10e au départ avec des voitures plutôt lourdes. C'était la stratégie de Massa en Chine qui a pas payé mais qui aurait pu payer. Là, pour Raikkonen, s'il perd pas de temps au stand et s'il se déchire un peu plus en piste, et ben ça peut facilement le mettre à la bataille avec Hamilton.
Quand tu vois que Raikkonen est
10e. Quand tout marche bien, ils sont pas si loin que ça.
Ouais, quand tu vois que Raikkonen est 10e sur la grille, chargé en essence, qui fait un super départ et qui se retrouve 7e, joli quand même.
On passe au 15e.
Bon, bon, on peut aller vite après 15e et 16e. Physique est là et Sutil juste derrière.
Voilà, pas grand chose à dire. On en a. Alors, je vais juste dire un truc sur Buemi, c'est que Buemi, en fait, dans un petit incident, ils ont perdu. Alors, je sais plus s'ils ont perdu ou si ils ont récupéré dans son aileron avant, ils ont récupéré un bout de carbone, bout de carbone long comme le bras. Et ils ont retiré un bout de carbone quand il est rentré au stand. Ils ont retiré une partie du bout de carbone, sauf qu'ils ont pas vu le reste du bout. Donc, ce qui fait qu'il a fait toute la course avec ce bout de carbone dans l'aileron. Et c'est en ça que Bourdais le défendait en disant « Je fais une bonne course, mais Buemi a été un peu handicapé parce qu'il avait un bras de carbone complet dans l'aileron avant. » Moi, j'ai pas vu sur les photos, mais je pense que si Bourdais le dit, surtout à son désavantage, on peut le croire. Et puis là, alors, attention...
Avant de parler des deux derniers, je parlerai de celui qui était juste devant eux... À même pas 10 tours de la fin, c'était Nakajima.
Ouais.
Qui est le seul abandon de la course. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et lui aussi, on se demande ce qu'il fait là, quoi.
Ouais.
Il rentre très vite au il se retrouve dernier. Je sais pas s'il rentre au stand ou s'il fait une connerie dans le premier tour, mais il se retrouve dernier.
Je pense qu'il a été pris dans l'incident. Il a eu affaire dans l'incident du départ. Ça a été assez chaud le départ quand même.
Hein. Ouais, le départ a été très très chaud.
Ouais.
Et en plus, il partage un point commun avec Vettel. Il a pas gagné de course, mais il a été joliment percuté par Kubica en course.
Ah.
Hein, oui. Kubica qui lui a refait son costard. Pour une fois que Nakajima est pas responsable.
Oui.
C'est pas faux. Et donc, il abandonne sur une pression d'huile, on nous dit. Bon, admettons.
Ouais.
Et enfin, les deux derniers.
Ah!
Ouais.
Grosse déception.
Ah, grosse gifle, même. Hein, pour l'équipe.
Ouais, oui.
C'est une rousse.
Sincèrement, ça m'étonne qu'il n'y ait pas des têtes qui soient tombées chez BMW déjà.
Alors c'est là pour le coup, je pense pas qu'ils aient mis ça dans leur plan. Eux qui sont fait année après année, je pense que là ils vont quand même. Il y en a un qui doit ricaner intérieurement, c'est Kubica, de se dire l'année dernière, je leur ai dit attention, un titre ça se joue, on n'aura pas forcément tout le temps cette chance-là. Moi je veux jouer le titre. Je pense que là chez BMW ils commencent à moins en rire et à se dire peut-être que l'année dernière on aurait dû jouer le titre quand même.
Ah mais c'est terrible, hein, parce que bon, autant les autres top teams, bon, ça partait mal, alors soit ça s'améliore, soit on va dire c'est stable, mais alors eux c'est de pire en pire.
Ouais. Mm-hmm. Ah puis là c'est
Et t'imagines s'il avait gagné la première course?
Ouais.
Ouais.
Mais là c'est, honnêtement, là, sur cette course-là, c'est la course des Honda l'année dernière, pour les deux, il n'y a rien à faire, en plus ils ont tous les deux le Kers, quoi.
Alors, et eux aussi, stratégie, ils ont fait médium, médium, tendre. C'est les seuls.
Ouais.
Tout l'inverse de tout le monde, quoi.
Voilà.
Bah, je comprends pas, BMW. Sérieusement, alors là, ils commencent à se réveiller en disant, il nous faut des résultats, sinon on s'en va. Je suis pas persuadé que pour stimuler une équipe, ce soit le meilleur moyen de dire, attention.
Ah oui, là, c'est pas le bon moment.
Je pense pas que ce soit très très, très intelligent de leur part, mais bon, voilà. Il y a pas grand chose à dire sur eux.
Bah, rien, même, hein.
On passe au fait marquant de la course.
Mm-hmm.
Donc pour le sondage du blog, alors
il y a eu 6 votes.
Ouais. Il y a eu 6 votes, voilà. Donc la semaine dernière, la question du sondage était quel était pour vous le fait marquant du Grand Prix de Chine. On vous avait proposé le premier ravitaillement d'Alonso, la réaction de Vettel après l'accrochage de Buemi où il avait un petit peu endossé la faute et l'accident de Sutil. C'est le ravitaillement d'Alonso qui arrive en tête avec les deux tiers de points. Donc nouvelle victoire pour Alonso, pour Enzo. Et Shinji et moi avec nos propositions respectives sommes deuxième ex aequo avec 17% chacun, à savoir ma voix à moi et puis l'accident de Sutil. Je sais que c'est pas la voix de Shinji.
Oui.
Ce Shinji, il a été voté pour Enzo, mais
c'est très sport, non, joli.
Donc cette semaine on va recommencer le fait marquant de la course, voilà, comme ça au vol.
Les deux premiers tours très très impressionnants, très disputés. Je crois même qu'à un moment, alors Bon, c'est Bahreïn, hein, donc
il y en a eu 4 de front.
La piste, c'est... Ouais.
Il y en a eu 4 de front à un moment donné. Enfin, 3 de front, j'ai noté 3 de front.
Moi, j'en ai doté 4,5, 5.
De front.
Au tout début. Alors attention, au tout début, hein. Là, genre 20 mètres après le début, hein.
Ça rentre pas. Alors déjà 4,5, ça le fait pas.
Bah, c'est pour ça que je dis 4,5.
Tu les avais empilés?
Ah non, ça c'est Kubica.
Ah non, il a compté ses petites voitures qu'il a à côté sur l'étagère d'à côté, quoi. Et c'était au même niveau que la télé.
Comment rendre un peu intéressant les courses? Mettez des Mattel sur votre télé. Enfin non, mettez pas des Mattel sur votre télé, hein. Sérieusement, choisissez une autre marque. Enzo, t'as un moment de la course, toi?
Le fait marquant de la course?
Ouais.
Ben, moi je dirais que c'est Raikkonen en tête.
Raikkonen en tête.
Bah, ça fait quand même un bail qu'on n'avait pas vu ça. Surtout Raikkonen.
Si on s'attendait à ce que la réaction des rouges vienne de lui. et ben moi, ouais, sans le Leclerc, c'est ça qu'en plus qui, ben il fait ce qu'il fait. Ah oui. Il fait ce qu'avait fait comment s'appelle Kubica en Australie, hein, devant son coéquipier sans Leclerc. Ouais. Moi, je proposerais la défaillance des Toyota, enfin la mauvaise stratégie des Toyota.
On en reparlera.
Donc voilà, donc on proposera sur le blog un sondage, il faudra choisir entre le départ façon GP2 pour Shinji, le Raikkonen en tête pour Enzo et la défaillance des Toyota pour Bibi.
Ah, je pense que t'as gagné.
Alors, on va essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau. On va essayer d'établir notre podium de la course. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, alors ça sera peut-être le vrai podium, mais aussi un podium, on dira, alternatif. Sur quels sont selon nous les trois pilotes les plus méritants, et puis bon bah le premier on lui donnera 5 points, le deuxième on lui donnera 3 points, le troisième on lui donnera 1 point, puis sur la fin de l'année ça fera un petit classement du SAV sur la saison. Ça vous branche?
Très bien.
Ouais. Le meilleur pilote de la course c'est qui? Enfin du week-end.
Eh ben moi je veux dire Kimi, comme ça il sera au moins une podium cette année. Bon, ça sera pas celui.
Tu veux mettre Kimi?
Ah, c'était une boutade. C'est pour qu'il soit au moins sur une fois sur le podium. Quoi.
Ah, mais on peut mettre Kimi en troisième position si tu veux, hein.
Non, il le mérite pas. Franchement.
Est-ce qu'on garde Button en première place?
Moi, j'ai envie de le garder.
Oui, je pense qu'il mérite. Il part quatrième. Stratégiquement, il est irréprochable.
Donc on laisse Button à la première place. À la deuxième place.
Bah à la deuxième j'aurais tendance à laisser Vettel aussi. Hein.
Et à la troisième Trulli.
Ah non.
Peut-être pas.
Non. Donc on laisse Vettel à la deuxième.
Ouais.
Moi j'aurais mis Trulli pour sa pole parce que bon bah je pense que.
C'est... Non.
Puis bon il a un peu sauvé les meubles dans l'équipe mais. Bon, va pour Vettel. Et en troisième position, mettrais qui?
Eh ben, je mets très Bourdais.
Ouais, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. J'hésitais entre Bourdais et Piqué.
moi aussi. Mais je pouvais pas.
Non, on a notre petite fierté. Donc moi, je serais partant pour Bourdais. Shinji, t'en penses quoi?
Allez, Bourdais.
Ok, donc notre podium à nous, c'est Button, Vettel et Bourdais. On fera une petite page sur le site avec un classement de ce que ça vaut. Donc si nous on avait pu décider de quel aurait été le podium, on aurait mis Button comme pour le vainqueur de la course, Vettel comme la course et Bourdais pour sa prestation plus qu'honorable pendant cette course. Un beau podium ça.
Oui.
Alors au championnat. Shinji, tu nous fais le championnat? Avec ta belle et douce voix suave.
Alors, première place, comme depuis le début de la saison, Jenson Button.
Et ça changera pas la prochaine course.
Non, en effet. Donc, Jenson Button, 31
points. À moins vraiment Barrichello se défie.
À moins que
les gars fassent 150% de la distance de la course, et là, ils auraient une fois et demi le point.
Deuxième, Rubens Barrichello avec 19 points.
L'éternel second.
Il y a déjà de l'écart, hein. 12 points, donc. Troisième, Vettel, 18 points.
En deux courses.
Oui, c'est vrai, en deux courses seulement. Quatrième, Jarno Trulli, 14 points épiques. Cinquième, Timo Glock, 12 points. Marc Weber, 9,5 points.
Ça va nous faire chier toute l'année, hein, les 0,5. Hein.
Ouais. Et les 6 premières places, c'est 3 équipes. Hein.
D'après toi, pourquoi je vous demande de le faire?
7ème, Lewis Hamilton, 9 points.
Ah,
je sais pas. 8ème, Fernando Alonso, 5 points.
Ah, jusqu'à la fin de l'année.
Nick Heidfeld, 4 points.
Comment ils peuvent être devant Raikkonen? Je comprends pas. Je comprends pas.
Nico Rosberg, comme quoi Williams marque quand même des points, 3,5 points. 12ème.
C'est plus que Ferrari, hein.
Ouais.
Ouais,
Kimi,
voilà.
Raikkonen, 3 points.
Sébastien,
3 points. Et 14ème, Sébastien Bourdais avec 1 point.
Et je me rends compte, Kubica, il est pas dans le classement.
Eh non.
Ah, l'horreur.
Bah, il y a que 14 pilotes, hein, sur 20. Il y a pas Kovalainen.
Piquet non plus.
Il y a pas Kubica.
Ah,
Kova, il y est.
9ème, il y a 4 points.
Ah oui.
Ah, il vient dire le classement. Il vient dire le classement, il sait même pas qui c'est qu'il y a dedans. Ouais. Au constructeur.
Brown GP, 50 points, on l'a dit, hein, 3 points de plus que Ferrari à la même époque. Red Bull Renault, 27,5 points. Toyota, 26,5 points. Ensuite, loin derrière déjà, McLaren, 13 points. Renault, 5 points. BMW, 4 points. Toro Rosso, 4 points. Williams, 3,5 points. Et Ferrari, qui ouvre son compteur avec 3 points.
Mais qui reste 9e.
Au titre constructeur, à mon avis, ça se jouera entre les 3 premiers. Hein. C'est pas possible qu'il y en ait d'autres qui rentrent dans deux ans.
Bah, à moins qu'il y ait une défaillance des premiers et que c'est peut-être possible, hein, que McLaren se mette à faire des bons résultats et tout. Moi, je reste persuadé quand même que McLaren, ça va rester moyen un peu toute la saison. Donc,
En fait, moi, j'espérais un peu une victoire de Toyota et de Trulli pour que, disons, plus ceux qui sont forts actuellement se partagent les points, mieux c'est pour les poursuivants.
C'est vrai.
Et je m'étais dit, bon, ça serait quand même mieux que ce soit une Toyota qui marque plutôt que Brown Grand Prix qui engrange encore des gros points. Pas de bol.
Ça betonne, hein.
50 points.
Betonne, mais Barrichello en chope quelques-uns quand même. Hein,
c'est vrai, il en a déjà 19.
50 points, bon.
C'est conséquent.
Il y a encore beaucoup de chemin pour un titre, mais c'est un beau pactole, hein.
50 points, c'est la moitié du chemin. Ils ont fait en 4 courses la moitié du chemin qu'ont fait Ferrari et McLaren l'année dernière, parce qu'il faut quand même se rappeler, l'année dernière, le titre, il joue à moins de 100 points. Ah non, c'est constructeur.
Non.
Désolé, c'est
constructeur. En règle générale,
c'est 150
points.
C'est, voilà. Ouais. Les années où c'est très disputé, c'est dans les 120, 130.
Non mais, par exemple, si on prend le pilote, Button, il a déjà 30 points. C'est grosso modo un tiers de ce qu'on avait eu l'année dernière. Et il faut se rappeler, l'année dernière, on a eu pas mal de vainqueurs différents sur les premières courses. Là, on a grosso modo un vainqueur sur... Voilà, Button gagne 3 fois. Et généralement, quand le mec part bien en début de saison, on l'a vu les dernières années avec, je dirais pas Kimi, mais avec Alonso, Schumacher et compagnie, quand ça part bien en début de saison, si l'équipe reste stable derrière, et apparemment Brown, ça a l'air d'être stable, il n'y a pas de pépin mécanique pour le moment, c'est plutôt raisonnable, ça peut être bon pour la fin de saison.
Heureusement qu'on a fait les médailles, parce que ah ouais, là, ça sentirait déjà le gaz. Hein.
Arrêtez. Bah encore 2 courses et c'était mort.
Oui.
Pas loin.
Surtout que là, la prochaine course, c'est l'Espagne. On passe au drive-through of the race. On va commencer par qui? Je vais commencer moi, tiens.
Vas-y.
Et moi, j'ai mis un drive-through à Kimi Raikkonen.
Alors, pourquoi?
Vous avez le droit de me descendre.
Explique-toi.
Alors, on avait mis un drive-through la dernière fois à Kimi Raikkonen parce que, je crois que c'est Enzo qui l'avait mis. Parce que voilà, il sortait pas les doigts du cul. Et là?
Je lui ai pas dit ça, moi.
Oh, alors je suis sûr, si je réécoute, je suis sûr que t'as dit un truc comme ça.
Si, je l'ai dit.
Et moi, en fait, ça serait pour... c'est pas pour vraiment pour l'inverse, mais Kimi fait une bonne course.
Il se les est sortis, mais il n'est pas allé se laver les mains.
Ah non. Alors, il se les est sortis, mais le problème, c'est qu'en se les sortant, il s'est dit, ça me suffit pas. Alors, c'est super dans l'esprit. Pire. Il a déclaré après la course, après une bonne course quand même, il fait sixième avec la Ferrari en ce moment, c'est plutôt un bon résultat. Moi, je m'attendais à ce que Ferrari marque pas de points ce week-end, donc c'est plutôt une bonne course. Il fait quelque chose de pas mal, il mène la course comme tu l'as dit, donc c'est quelque chose de plutôt bien. Et après la course, il dit « je suis content d'avoir 3 points, mais ça ne me suffit pas ». Et ce « mais ça ne me suffit pas » m'a complètement sorti hors de moi. Parce qu'on part quand même de Kimi Räikkönen, qui est quand même un champion du monde en 2007, qui l'année dernière n'a strictement rien fait pour s'imposer dans l'équipe. Et qui là, depuis le début de saison, on attend quand même qu'il y ait un des deux pilotes Ferrari qui prenne le taureau par les cornes et qui dise « voilà, maintenant, moi, ça ne me suffit plus, je veux me battre pour le titre, il faut qu'on y aille ». Räikkönen qui, à la veille du Grand Prix de Malaisie, disait « bon, bah là, on va pas se battre pour le titre, etc. » Et là, qui nous sort, ça ne suffit pas. Il s'improvise Alonso, il s'improvise Michael Schumacher, alors qu'il y a deux semaines, il en était loin de là. Donc moi,
c'est bien, il progresse.
Alors c'est bien pour cette course-là, mais ça aurait dû venir beaucoup plus tôt. Et je pense que c'est un peu facile de dire maintenant, ça ne suffit pas, je veux plus, alors que franchement, il fallait peut-être se sortir le doigt du cul un peu plus tôt. C'est bien de se les sortir, mais c'était pas Bahreïn qu'il fallait se réveiller.
T'as remonté, hein.
Ah ouais, ouais,
ouais.
Alors ensuite, allez, Trulli, enfin Enzo.
Quel boulet.
Oh là là.
Attends, on va couper, on va la refaire.
Alors ensuite, Enzo.
Oui.
Quel est ton drive-thru of the race?
Ah, pour moi, c'est au 13e tour. Quand Trulli, 14e tour, quand Trulli se fait dépasser par Alonso. Alors pourquoi? Trulli, ce gars-là, il marche au mental. Et je te jure, hein, quand j'ai vu ce déplacement, je me suis dit, c'est bon, Trulli gagne pas. Non, mais c'est clair. Autant s'il avait réussi à le garder derrière lui un peu plus longtemps, bon, ça fait le gars motivé. Mais à partir du moment où il se fait doubler comme ça, c'est foutu d'avance. Je sais pas ce gars-là, mais c'est systématique chez lui. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mêler, qui vient se prendre sous sa chaussure, entre sa chaussure et sa pédale, et je parle pas d'Alonso quand je dis ça, c'est foutu. Voilà, c'était tout.
Ouais. Mais il est, sur le coup, il est quand même en pneu dur, je crois, et,
ouais, mais.
Il sort des stands,
Oui, non, mais sans doute, peut-être, mais si tu veux, c'est pas dans le fait qu'il se fasse doubler, c'est normal, si tu veux, mais je sais que.
C'est sur le moral.
Ça le tue le moral, et c'est toujours comme ça chez Trulli, quoi. Il y a une course qu'il a gagnée, c'est à Monaco, où il a toujours été en tête et ça s'est bien passé, il est allé au bout, mais dès qu'il y a le moindre petit incident, ben voilà, pouf, on ne le voit plus, quoi.
C'est vrai, je suis assez d'accord. Ben, c'est la réputation de Trulli.
Voilà, en plus, il est décevant pour ça, quoi, parce qu'en qualif, il peut être très bon, mais... Et j'ai hésité, même, pour moi, c'est limite le fait marquant de la course. Hein. J'ai hésité à le citer tout à l'heure, mais je voulais pas faire de redite. Parce que, pour moi, je sais que à partir de là, il gagnera pas.
Ouais, c'est une bonne analyse.
Je te remercie.
Mais de rien. Ah, oh, Shinji, c'est une bonne analyse.
Oui, c'est une bonne Alors. Analyse.
Ah tiens, justement, Shinji, allez, ton drive-thru...
J'ai eu du mal. Hein.
Alors, attends, je pense que ton drive-thru du week-end... C'est le même que la même course l'année dernière et ce sera le même l'année prochaine.
Oh là.
Ça dépend.
D'accord, c'est le circuit alors.
Mais je...
Il n'arrête pas de dire. Vas-y, voilà. Sors. Vas-y, sors-le.
C'est... Alors, est-ce que c'est le Grand Prix? Est-ce que c'est la piste en elle-même? Je sais pas. Mais voilà, ce Grand Prix de Bahreïn à chaque fois...
Il t'énerve.
C'est même pas qu'il m'énerve, c'est qu'il m'endort. Alors, c'est peut-être le fait que c'est le premier Grand Prix... on va dire à des horaires européens, alors tu comprends, la digestion doit reprendre l'habitude de digérer devant la F1, je sais pas.
Bienvenue dans un épisode de la vie de Shinji. Shinji vous présente la digestion, sponsorisé par les trajets Fuka.
Pourtant, il y a d'autres pistes, parce que c'est une piste de Tilk que j'apprécie, mais celle-là, que dalle.
Bah, c'est vrai qu'il faut avouer que...
Tu as dit, elle est pas spécialement sélective...
C'est vrai qu'il faut reconnaître, tout le monde...
Le décor est monotone, mais bon, ça, on peut pas trop lui reprocher.
Tout le monde le dit, hein, c'est quand même un circuit qui est posé en plein milieu du désert. Il y a rien autour, c'est déprimant d'ailleurs, quand on regarde autour du circuit, il y a vraiment rien autour. Mais tout le monde s'accorde à dire que quitte à faire un truc dans un endroit complètement paumé, eh ben, autant t'amuser avec le terrain et faire des choses plutôt sympas. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, le circuit, il est pas super, super attractif, quoi.
Alors, je suis persuadé que d'ici quelques années, il y aura une ville autour.
C'est possible.
Ouais.
Et le départ était bien, hein. Je me suis dit, ouais, super, cette année, enfin une course intéressante à Bahreïn. Alors, elle l'a été.
Mais c'est dû aux voitures, je pense aussi.
C'est vrai, oui, oui. Mais c'est vrai qu'en plus, par rapport aux courses qu'on a eues avant, les trois premières qui étaient quand même pas trop mal, bah là.
Mais là, le truc, c'est que c'est vraiment. C'est clair.
C'est impossible.
C'est quand même le circuit type de l'accélération freinage, quoi. Il y a quasiment que ça. Ouais. Hein. Tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines. C'est vrai que c'est pas nécessairement ce qui est plus propice aux belles actions ou à ces trucs comme ça.
Wow.
Pour défendre le circuit, il y a quand même quelques beaux passages. Moi, j'ai notamment, j'ai redécouvert là le circuit, le dernier virage, l'espèce de d'enchaînement très resserré là à la fin.
Mm.
Alors, ça va peut-être choquer les plus puristes. Mais j'ai redécouvert ce virage-là comme il y a quelques années, j'ai redécouvert Silverstone. Silverstone, c'était un circuit que je trouvais fade, que je trouvais pas du tout intéressant. Puis j'ai regardé un jour sur Eurosport, parce que j'avais Eurosport à cette époque-là, j'ai regardé Eurosport et je me dis tiens, je vais mettre les essais. Je mets les essais et en 10 minutes, je tombe amoureux de ce circuit. Et là, voilà, ce virage-là, il me fait le même effet. Je suis tombé red dingue de ce virage-là, je le trouve très sympa, il est en dévers. Il y a le premier virage qui est pas un monument, qui est un peu dans la lignée des derniers virages où c'est un gros freinage, où tout le monde s'engouffre. Mais on l'a vu en course, ça a donné quelque chose de plutôt sympa. Et puis il y a le virage, le double virage en pente, qui est un bel endroit de pilotage.
Mmh.
Mais c'est un peu comme la Chine. On avait parlé l'année dernière de la Chine, si tu te souviens, pendant le SAV. Où ouais. J'avais dit, voilà, la Chine, à part le dernier virage et le premier virage, c'est que de la merde le reste. Là, il y a un virage en plus qui est bien pour moi, Bahreïn.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est pas du niveau du reste. Et puis, c'est aussi un peu le défaut des courses exotiques. On critique souvent les circuits, mais il faut aussi parler de l'ambiance. Et c'est vrai que quand on prend en Chine, ils n'ont pas une culture de sport auto. Et quand je vois qu'ils vont mettre la course des champions en Chine dans le stade des Jeux de Pékin, je ne comprends pas parce que ça va pas du tout fonctionner. Ou alors seulement pour les riches Européens qui auront les moyens d'y aller. On voit en Malaisie, c'est déjà un peu mieux, je trouve, niveau ambiance. Mais à Bahreïn, il y a pas d'ambiance, pas de véritable folie autour. La seule ambiance, en fait, c'est dans les paddocks quand on voit les émirs qui arrivent et tout. Là, tu sens qu'il y a, il y a du blé et tout. C'est agréable.
Bien, c'est beau ce que tu dis.
Eh.
Ouais.
Tu t'es endormi, c'est ça?
Oh. Non, du tout.
Mais en plus, t'imagines, on Bahreïn, on va en Espagne, on va à Barcelone, qui pour moi aussi est pas vraiment.
Mais Barcelone,
enfin, là, c'est un autre problème à Barcelone.
Barcelone, voilà. Barcelone, c'est le fait que c'est un circuit qui accueille tant de essais, donc ils le connaissent par cœur. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir Bahreïn et juste derrière Valence.
Ah oui, pourquoi pas. Enfin.
pas le circuit de la communauté urbaine, hein, le circuit dans la ville.
Ouais, bah ils ont beaucoup à se rattraper cette année.
C'est irrattrapable.
Mais moi je dis, tu sais, des échappatoires dans l'eau, moi je trouve ça génial. Plouf, Piqué qui irait souvent dans les échappatoires pour faire gagner Alonso.
Le circuit de Valence, ça fait quand même prison. Hein.
Oui. Ouais, je pense qu'il faut qu'il gagne là-dessus. Le tracé est assez sympa à Valence, mais voilà.
Non, c'est comme s'ils avaient fait un circuit à Valence. Vu où il est fait, on se croirait comme s'ils avaient fait un circuit au Havre.
Ah non, mais arrête, je te jure. Il y a un an et demi, à l'époque où ils cherchaient un nouveau Grand Prix pour accueillir le Grand Prix de France, la ville de Rouen s'était proposée. Et comme tout le monde le sait, enfin j'espère que certains le savent, Rouen est à côté de Rouen, il y a un circuit qui s'appelle le circuit des Essarts, qui a longtemps accueilli
s'appelait.
France, qui s'appelait, ouais. Parce que maintenant, c'est une route,
plus.
Maintenant c'est une route départementale. Et qui a longtemps accueilli le Grand Prix de France dans les années 50-60, je crois. Et donc, on pouvait penser que c'était effectivement le projet de réhabiliter le circuit des Essarts. Et dans la région, c'est un vieux serpent de mer, ça. On nous le ressort tous les 10 ans. D'ailleurs, ça va ressortir bientôt. Et en fait, non, il y avait un projet de faire un circuit dans le port de Rouen. Sauf que le port de Rouen, c'est un port industriel.
Et il a la grippe, le port, ou pas?
Hein?
Il a la grippe, le port?
Ah, il a même une pneumonie.
Ce qui est dommage à Valence, c'est qu'ils ont fait ça dans le port. À la limite,
oui, tout à fait.
Une partie dans
en la ville. En voulant faire un truc classe.
Valence, moi, de nuit, Valence, j'aimerais bien voir.
Ouais, pourquoi pas?
Pour le coup, de nuit, ça serait sympa à voir. Parce que justement, le côté tristoun dont on parle... le côté prison dont on parle, je suis sûr que si on fait des essais en plein jour à Singapour... On a la même impression.
Oui.
en dehors des tours derrière qui sont un peu plus, voilà, qui se mettent un peu de relief. Mais je suis sûr qu'on a la même impression vu de la caméra intérieure.
Il y a aussi le fait que, à Singapour, ils doivent faire comme à Monaco, c'est-à-dire que ce sont des rails.
Ouais.
Alors que là, c'est des murets.
Non, quoi qu'à Singapour, il y avait des murets. Hein.
Il y a aussi des murets.
Ouais, il y avait
possible,
des.
C'est possible, oui.
Mais, alors déjà, je pense que en plus, hein, c'est quand même les Espagnols, c'est très coloré, donc déjà, je pense que les murets, ils auraient peut-être pu les peindre.
Ouais.
Dans des couleurs orange, jaune, etc., ça aurait fait sympa.
Moi, on aurait moins vu quand Piquet se sera craché dedans.
Ah non, mais ça, c'était à Singapour. Quoi qu'il a sans doute dû se cracher à Valence. Et mais sérieusement, de nuit, avec le grand parc des derrière de grues, qui, je pense, aurait pu être éclairé la nuit. Franchement, la nuit à Valence, je pense qu'on peut sans doute avoir un circuit encore plus beau qu'à Singapour. Mais il faut passer le circuit de nuit, il faut faire une course à 20h. Les médias français TF1 va gueuler parce qu'ils vont pas pouvoir mettre les experts. Donc voilà. Ce circuit, ce qui est chiant, c'est qu'il a lieu en plein jour, quoi. Mmh. Et bon, dans l'ensemble, il y a des trucs intéressants, mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs moins intéressants dans le circuit.
Bah, ce qui est sympa, c'est le pont, mais il le lève pas pendant la course.
Il faudrait le lever à chaque fois qu'il y a piqué. Hop, il a piqué. Hop, on le remet correctement des Alonso. Quoique piqué, il aime bien les ponts. Il a goûté à celui de Singapour, il paraît qu'il est très goûtu. donc ça c'était nos drive-through du week-end. On passe à la course de comment ça s'appelle, de Barcelone.
Yes.
En plus d'Espagne.
Qui pronostique?
Je vais dire Button. Hein.
Ouais, bah c'est un peu la mode, on va dire.
Et puis franchement, en Espagne, il y a pas de secret hein, pour le vainqueur. Hein. Celui qui gagne en Espagne en règle générale, c'est vraiment les meilleures voitures du championnat.
Hein. Ouais, puis ils ont
statistiquement. À 2-3 exceptions. Je crois que le vainqueur en Catalogne, qui s'est le plus mal classé en fin de championnat, c'était en 3e place.
Et c'était qui?
Je me demande s'il y avait. Bah, il y a eu Massa.
Massa, il a gagné là-bas. Ah oui, l'an dernier. Ouais, l'an dernier, il a gagné. Ouais. Donc, après Button, Enzo, t'as un prono? Moi qui ne nous engage à rien hein, par rapport au reste des pronos.
Oui.
Entre quoi hésites-tu?
Je vais être fou. Massa.
Massa. Eh ben, je vais être fou aussi, je vais dire Raikkonen.
Parce mais que... les gars, vous savez qu'on est le 29 avril, on n'est pas le 25 décembre.
Hein. Ni le 1er avril.
Non, mais moi, je pense que... Ouais, je l'ai mis en vainqueur parce que, bon, voilà, parce que... Il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais ils étaient bons aux essais cet hiver là-bas. Peut-être qu'ils étaient bons aussi à Bahreïn et ça leur a réussi à Bahreïn. Donc peut-être qu'en Espagne, ils seront au rendez-vous. Et puis, je pense que la voiture n'a pas vraiment évolué depuis le début de la saison, même depuis les essais hivernaux, je trouve. Et je pense qu'il va y avoir une grosse mise à jour.
Oui, oui, c'est prévu. Et beaucoup d'équipes vont en avoir, hein.
Mais je pense que la mise à jour de Ferrari va vraiment les faire bondir dans le classement, pas forcément pour jouer avec les équipes de tête,
ouais.
Mais voilà, avec les circonstances, pourquoi pas.
On les vrais compétiteurs devraient arriver.
Et on n'est pas à l'abri d'une pandémie. Hein.
C'est vrai que avec ce qui se passe en ce moment, on ne sait même pas s'il y aura un Grand Prix d'Espagne.
Oui, ça se trouve, il ne sera
plus.
Non, mais il peut être annulé.
Tout à fait.
C'est vrai. Là, c'est vrai, tiens. Bah, ils ont déjà annulé, c'est en monoplace américaine, je crois, ils ont annulé les courses. Non, c'est en A1GP, je crois. Ils ont annulé les courses au Mexique.
Ouais.
Mais bon, le Mexique, c'est la situation vraiment là-bas est très tendue.
Et vraiment, en Espagne, il va y avoir beaucoup d'évolutions. Hein. Ferrari, évolution, Brown, évolution, sans doute Red Bull, McLaren, Renault. Donc. Peut-être des cartes redistribuées.
Bah ouais, et on parle même d'un nouveau museau pour la McLaren.
Ah ouais, carrément.
Ouais, basé sur des plans de Ferrari, un groin de cochon.
Oh.
Pour qu'il soit malade.
Attendez, 2 secondes, une petite pause s'il vous plaît.
Pause. Un gars, une fille.
Ça sonnerait pour ça.
Alors, je sais pas si c'est la sonnerie de portable ou si c'est Enzo qui regarde un gars et une fille.
Ouais, mais on l'aurait entendu avant, si c'était l'émission.
Ah non, s'il a un casque.
Me revoilà.
Ça va, chouchou? Enfin, loulou? On se demandait si tu regardais un gars et une fille.
Oui, non, mais c'est ma sonnerie de téléphone, ça.
Allez, t'aurais pu dire que tu regardais la série.
Ça, je crois que je vais être obligé de le garder.
Non, tu peux pas.
Enzo a un gars et une fille comme sonnerie de téléphone. Donc, je sais plus où on en était. On était sur plein de trucs.
On en était sur les pronostics. On disait qu'on n'était pas à l'abri d'une pandémie en Espagne. On savait pas si le Grand Prix aurait lieu. On disait qu'il y avait plein d'évolutions et on citait toutes les écuries. On disait que McLaren aurait un nouveau museau copié sur celui de la Ferrari, c'est-à-dire en cochon, en groin. Voilà, on en était là.
Voilà.
Je suis, moi.
on va essayer de bah, on va conclure.
Oui.
Avec le concours top pas position.
Est-ce qu'on le fait?
Bah, faut quand même mettre la réponse.
On le fait quoi?
Bah, je propose qu'on donne au moins la réponse.
Alors, vas-y, Shinji, donne la réponse.
Très bien. Alors, la question, c'était. Donc, concours top pas position en Chine. Après Papa Hamilton et Papa Massa. Après Papa Button en Australie, quel autre papa de pilote a été sous le feu des projecteurs lors du Grand Prix de Chine? La réponse, c'était Papa Weber.
Et malheureusement, comme personne n'a participé, il n'y a pas de gagnant.
Voilà.
Mais comme on est des fous,
ouais, on est des
fous, persiste et qu'on signe, on vous redonne une nouvelle chance. Et là, en plus, le premier qui nous répond, même si la réponse elle est fausse, il a le droit à un petit cadeau. Et le premier qui donne la réponse.
On en a marre, là.
On veut au moins un jour que ce concours marche.
Sinon, l'autre solution, c'est de taper un nom au hasard dans page jaune ou page blanche, et puis on offre quelque chose à quelqu'un.
On l'appelle en direct. Ah, oui, bonjour. On aimerait savoir si vous savez quel était le père de pilote qui était en Australie. Bah, c'était moi, Monsieur Weber. Non, je suis Francis Weber et je mange du Danacol parce que j'ai besoin de Danacol.
Oh non.
Alors, pour dans 15 jours, donc nouvelle question présentée par Enzo.
Bienvenue au concours Top Pas Position. Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix de Bahreïn. Répondez maintenant à cette question. De quelle équipe sponsorisée par Letton House vous ai-je parlé la semaine dernière? Envoyez vos questions en laissant un message sur le blog savf1.ablog.fr.
S'il vous plaît, faites ça pour nous. On n'en peut plus là, on a plein de cadeaux qui s'accumulent et on n'arrive pas à les fourguer. J'ai acheté des trucs exprès et non, ça marche plus là. S'il vous plaît. Je vous ferai même une tasse, si vous voulez, avec le SAV de la F1, je sais pas, je le dessinerai dessus à la pyrogravure, mais s'il vous plaît, répondez. Allez, sur cette note, on va vous laisser, on va espérer que cette émission, un peu dans une nouvelle formule, enfin, on essaye de changer,
On évolue.
Voilà, on essaye d'évoluer pour...
Surtout sur les conseils de nos nombreux éditeurs.
Oui, voilà, oui. Qui ont des conseils très avisés.
Et on s'écoute, hein.
Et donc, on espère que que ça vous plaît. On souhaite bienvenue à tous ceux qui nous rejoindraient pour cette émission. Et puis, on vous dit à dans 15 jours pour le SAV du Grand Prix d'Espagne.
Et surtout, si vous vous sentez légèrement fiévreux et que vous toussez, je m'excuse sur toutes les blagues de mauvais goût que j'ai pu faire.
Ah, oh, j'ai un peu de fiévre.
Ah, j'ai honte.
Allez, salut.
Bonne soirée, ciao.
Salut.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Thank you.